Bonsoir à tous. On va commencer la séance sur la physique des amas de galaxies. Donc déjà, pourquoi on s'intéresse aux amas de galaxies et pourquoi on veut connaître mieux la physique ? Alors les amas de galaxies sont les structures les plus grandes qui soient virialisées dans l'univers. On sait qu'on a décrit les semaines passées les superamas, les amas, etc. Super-superamas, mais celle-ci n'était pas forcément virialisée. On avait même décrit que l'Aniakea, qui était la structure dans laquelle nous sommes, était peut-être en train de se défaire par l'accélération de l'expansion. Donc les amas, c'est vraiment les plus grandes structures qui sont liées gravitationnellement. On aimerait savoir comment ils se forment, évidemment la gravité, mais aussi il y a beaucoup de baryons, de gaz qui se refroidit. Comment ils se refroidissent ? Quelle est la relation entre matière noire et baryon ? La forme intrinsèque, on voit dans cette simulation de matière noire que les amas ne sont pas du tout sphériques comme on va voir dans les modèles très simples et supposés. Ils sont même formés de plusieurs sous-structures. Combien de sous-structures ? Combien ils se forment par fusion de sous-structures ? Évidemment, tout ça, c'est pour s'en servir comme outil cosmologique. On sait que ce sont des outils pour connaître les fluctuations de l'univers, comment ces fluctuations croissent en fonction du temps, à tous les redshifts. Donc on va avoir le rapport masse sur luminosité, et surtout le taux de croissance, dm sur dt. Et c'est ça qui va nous donner un petit peu quelques indices sur le fait que la gravité est bien celle d'Einstein, la gravité de relativité générale, ou bien il va falloir rajouter autre chose. Est-ce que l'énergie noire, c'est vraiment une constante cosmologique ou quelque chose de dynamique, et puis connaître mieux la matière noire qui en est les amas. Est-ce qu'elle est dissipative ou pas ? Comment elle se relie ? Donc tout ça, c'est ce qu'il y a derrière, pourquoi on s'intéresse aux amas. Donc déjà, comment on les étudie ? Quels sont les outils, les surveys ? On a déjà décrit un petit peu l'historique les semaines d'avant. Dans les premiers temps, c'était de façon optique qu'on regardait les amas, notamment Zwicky. Fritz Zwicky est un des premiers à en avoir fait un catalogue. Il avait presque fait 9000 et quelques d'amas de galaxies. Il y avait aussi pas mal de galaxies dans son catalogue. Toutes n'étaient pas aussi bien configurées. George Abel en a fait 4700. Il y en avait bien entendu en commun entre les deux. Et on s'en sert encore beaucoup du catalogue d'Abel. Et puis, dans les années 90-2000, il y a eu quand même une révolution des rayons X, puisque lorsqu'un amas se forme, il y a beaucoup de gaz qui est chauffé et qui se virialise à la température du viriel de la structure. Donc plus le puits de potentiel est profond, plus la température est élevée. Et on peut détecter très très vite tous ces amas en regardant l'émission diffuse de ces rayons X. Alors, par exemple, ROSAT est un télescope spatial, enfin un satellite X, qui a fait le survey de tout le ciel. Et on voit ici les amas. Alors évidemment, là, il y a le plan galactique qui nous empêche de voir très loin, mais ensuite, on voit qu'il a détecté 300 amas qu'on appelle Brightest Cluster Survey, donc on va le décrire, étendu. Et c'est là-dessus que l'on a pu faire pas mal d'études. Ensuite, juste après, il y a eu l'effet Sunyaev-Zeldovich qu'on a mentionné la semaine dernière. On va le redécrire aujourd'hui. Et notamment le satellite Planck qui a pu détecter 1600 amas là-dessus. Donc vous voyez, on en a quelques milliers, quelques centaines sont bien étudiées. Et puis d'autre part, il y a les lentilles gravitationnelles. On s'est aperçu en 1987, notamment sur cet amas, Abel 370, qu'il y avait des arcs. Cet arc, par exemple, quand on regarde dans le passé, évidemment, il existait sur les images, mais les gens ne l'avaient pas interprété comme lentille gravitationnelle. Ce n'est qu'en 87 qu'on a compris que c'était une lentille. Et on a pu en faire des tas d'applications, notamment aujourd'hui, c'est une industrie, on regarde avec le télescope spatial, des tas d'arcs dans les amas, et on en déduit une cartographie de la matière totale, donc la matière noire que l'on ne voit pas dans les amas de galaxies. Donc ça, c'est un outil aussi qui nous a permis de beaucoup mieux connaître toute la matière noire dans les amas. Et en plus, il faut mentionner les simulations numériques, qui sont de plus en plus raffinées et qui permettent de comprendre ce qu'on voit et même essayer de prédire et de chercher derrière. Alors, pour cette image, c'est une image qui montre bien la révolution des rayons X pour observer les amas. Vous avez ici une série d'histogrammes, donc le nombre d'amas, de galaxies, nombre de galaxies dans un amas. Alors ici, vous avez un amas, 2, 3, 4, 5, une dizaine d'amas. Et le redshift est en bas de 0 à 1,5. Et on voit le nombre de galaxies lorsqu'on fait les spectres, on a son redshift, donc le nombre de galaxies, et on voit que lorsque les opticiens voyaient une concentration dans le ciel, ça paraissait compact. Quand on regarde les décalages vers le rouge, il y a beaucoup de galaxies d'avant-plan et de galaxies d'arrière-plan. Et pas beaucoup dans l'amas. L'amas, c'est le pic que vous voyez ici. Quand on regarde en X, ici on a les amas MAC-S, c'est-à-dire les massive clusters surveys. Évidemment, ils sont encore plus massifs, mais au moins c'est une façon de trouver les amas les plus massifs. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui nous indique quelles sont les superpositions sur la ligne de visée, et on voit que l'amas se distingue très bien. Vous voyez qu'il est très beaucoup plus facile de détecter les amas avec les rayons X. Par exemple, justement, une vue, cette fois-ci, c'est le satellite Chandra. Aujourd'hui, il y a deux satellites X qui sont dans le ciel, Chandra et XMM, Chandra américain, XMM européen. Le Chandra a beaucoup de résolution, une seconde d'art. Par rapport à Rosette, qui en avait beaucoup moins, il fait des champs profonds et avec haute résolution. C'est pour ça qu'on peut résoudre l'amas. Les contours ici sont les contours de l'émission X. Et on voit que c'est de l'émission diffuse. Derrière, c'est l'image optique, VRI, les trois couleurs. Et vous voyez qu'en effet, les X correspondent à la structure de l'amas en optique. Mais Chandra permet de résoudre, mais Rosette avait beaucoup moins de résolution et permettait de faire tout le ciel. Chandra ne peut pas faire tout le ciel. Alors donc, avec ces satellites X, voici un petit peu un résumé fait par Ebeling en 2010 du nombre d'amas de galaxies détectés en X. Ici, vous avez la luminosité X de l'amas en fonction du redshift, le survey Rosette dans tout le ciel. Alors, vous voyez la limite de sensibilité qui est ici, évidemment, en fonction du redshift. On peut décrire un flux constant, et plus on va loin, et moins on voit les faibles objets, bien sûr. Donc, ça permettait de détecter tous les points bleus. MAC-S, c'est les Massive Cluster Survey, donc c'est vraiment les plus massifs. On a cherché avec Chandra ceux qui étaient encore plus massifs, même que les plus massifs de Rosette. Ça a permis d'aller plus loin en redshift, d'être plus sensible. Alors, il faut remarquer qu'il y a tout de même des surveys qui sont très profonds et pointés, qui ne regardent pas tout le ciel, mais qui font quelques degrés carrés et qui permettent d'aller plus en profondeur et de détecter quelque chose de plus faible. Donc d'avoir une petite idée de tous les amas à grand redshift qui sont plus faibles. Donc ça vous donne un petit aperçu du nombre d'amas que l'on a en fonction du temps, puisque 0,7 c'est la moitié de l'âge de l'univers, donc on a quand même une grande fraction des amas observés. Alors il y a aussi l'outil effet Sunyaev-Zeldovich qu'on a mentionné la semaine dernière, mais qu'on redécrit ici, qu'on appelle SZ pour aller plus vite, et qui est un effet Compton inverse sur les photons du fond cosmologique, vestige du Big Bang, le fond est très peu énergique, c'est des photons à 3 degrés Kelvin, donc 2 mm de longueur d'onde. Et donc lorsqu'ils arrivent dans un gaz, un plasma très chaud d'un amas de galaxies à 100 millions de degrés, les électrons sont beaucoup plus énergiques et la diffusion fait que le photon gagne de l'énergie. On le détecte avec un télescope millimétrique. On voit que le spectre en corps noir, qui est en rouge ici, du fond cosmologique, qui est presque un corps noir parfait à 10-5 près, il va être perturbé. On va enlever un peu d'énergie, on va donner de l'énergie à ces photons et les faire passer avec un peu plus d'énergie. Quand on fait la différence entre les deux, on voit que le signal qu'on détecte, c'est un défaut ici, un excès là. Et c'est ça qu'on appelle l'effet SZ, cette quantité qu'on détecte. Alors, ce qu'on n'avait pas dit aussi la dernière fois, c'est qu'il y a deux effets. Il y a un effet qu'on appelle thermique, le principal. Et puis, il y a aussi un effet qu'on appelle cinétique, qui est dû au fait que l'amas se déplace dans le référentiel fixe. Alors, on pourrait dire que le référentiel de l'univers, c'est le fond cosmologique, puisqu'il est à l'équilibre avec l'univers entier. Et puis, les amas sont animés de mouvements par rapport à ce référentiel fixe. Par exemple, on sait, grâce au fond cosmologique, que la Voie lactée, le Soleil et la Voie lactée sont en mouvement de 600 km par seconde par rapport au fond cosmologique et dans la direction du grand attracteur, ça on l'a vu par le dipôle. Donc ici, lorsqu'un amas est en mouvement, les électrons vont aussi donner un effet Doppler au photon, qui non seulement aura un effet énergique, donc c'est la même image que tout à l'heure. Vous voyez que l'effet cinétique, il est tout petit, c'est l'effet rouge qui est ici, il est beaucoup plus faible que l'effet thermique. Quand on regarde les perturbations en fonction de la taille des fluctuations du fond cosmologique, vous reconnaissez ici les ondes Doppler, les pics acoustiques. Et puis, à petite échelle, puisque les petites échelles sont là, les grandes échelles ici, petite échelle, on voit l'effet thermique SZ et puis l'effet cinétique qui est bien plus faible. Donc, c'est beaucoup plus difficile à voir. Dans le séminaire qui va suivre, Nabila Ghani va en parler. Mais ça nous donne des renseignements complémentaires sur les amas, donc ça, c'est assez intéressant. On l'a déjà détecté. Alors, quand on fait un petit résumé des détections par l'effet Z, on a, en fonction de Z, la masse des amas. On voit en rouge tout ce qui a été détecté par Planck, donc les 1600 amas, qui ça s'arrête à peu près à un redshift 0,6-0,7. Il y a aussi un télescope qui s'appelle le South Polar Telescope, donc dans l'hémisphère sud, qui fait 10 mètres de diamètre, qui observe dans millimétrique. Et il était spécialisé, justement, à faire des recherches profondes. Donc, ça permet d'avoir des amas encore plus faibles et d'aller plus loin. On va en décrire quelques-uns. Et puis, en optique, en bleu, et puis en noir, ce sont quelques amas détectés dans le survey XXL de XMM Newton. Alors, justement, pour donner une petite idée de la physique que l'on peut faire avec ces amas, on va regarder le papier récent de Capasso et al. Qui essaie d'exploiter tous les amas observés par le SPT. Ils ont fait un survey de 2500 degrés carrés, 110 amas, avec 3000 galaxies. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a 30 galaxies par amas. C'est très difficile d'avoir beaucoup de spectres dans chaque amas, donc ça fait assez peu. Mais voyez le nombre, la masse de ces amas en fonction du redshift. Vous avez des tas de petits points noirs qui sont tous les amas, et en couleur, ce sont ceux qui ont assez de spectres pour avoir assez de galaxies appartenant à l'amas, et donc c'est en couleur avec le nombre. Ici, vous avez 20, 40, si c'est bleu, et puis peut-être qu'il y en a un jaune qui est plus, mais ce qui limite, en fait, c'est le nombre de spectres que vous avez dans chaque amas. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire avec ces amas d'avoir exactement la masse, d'avoir un petit peu la forme et la masse. Alors, évidemment, ce sera dans l'espace des phases, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'espace des phases? C'est la position et la vitesse, quand on se contente pas que des trois dimensions spatiales, mais aussi des trois vitesses. Et puis, on sait que dans les amas, il y a des mouvements désordonnés. Il n'y aura certainement pas de rotation comme dans les galaxies, parce qu'il n'y a pas assez de gaz. La matière noire domine dans les amas. Donc, on va avoir des mouvements de galaxies ici qui vont avoir de ce mouvement-là. Et le problème, ça va être de distinguer, en fait. Évidemment, on a une masse globale quand on fait le viriel, c'est-à-dire V2 étant M sur R. On a une masse globale, mais on n'a pas la vraie masse, vu que les vitesses peuvent être anisotropes, soit tangentielles, soit radiales, et surtout au bord, elles sont radiales parce que les galaxies rentrent dans l'amas. On va voir exactement pourquoi. Donc on va essayer de faire cette étude. Alors évidemment, pour une étude où on a 30 galaxies par amas, ça ne suffit pas. Si vous prenez amas par amas, vous allez voir un bruit en racine de n qui est racine de 30, ça va être énorme. Donc ce qui va être possible de faire, c'est empiler tous les amas pour avoir un nombre de galaxies 3000 qui est assez grand pour que le bruit soit assez faible. Mais pour empiler tous ces amas, il ne faut pas empiler les petits et les gros de la même façon, il faut connaître un peu les boîtes de masse, et c'est ça qui est relativement difficile. Alors voici un petit peu ce qu'ils ont fait pour d'abord éliminer les galaxies qui n'étaient pas dans l'amas. Alors ici, c'est un diagramme justement dans l'espace des phases. Vous avez le rayon, distance au centre et la vitesse, et on le divise par un chiffre qui est le rayon, où la densité à l'intérieur de ce rayon est égale à 200 fois la densité critique de l'univers. Alors la densité critique de l'univers, on l'a décrite à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle est égale à 10^-29 grammes par centimètre cube. C'est la densité limite pour qu'un univers retombe sur lui-même par sa propre gravité. Et puis la densité critique, elle varie avec le temps, comme le redshift, et comme la densité dans l'expansion se dilue, comme le volume au cube, donc ça va varier comme 1 plus z au cube quand on remonte le redshift. Donc cette densité critique, on la connaît. Donc ce R200, on le connaît, c'est le rayon où la densité moyenne de l'amas est égale à 200 fois la densité critique. Ici, vous voyez le nombre, lorsqu'on a empilé tous les amas, le nombre en fonction de rayon, s'il n'y en a pas un pic au centre, simplement parce qu'on a le nombre dans les coquilles et que les coquilles au départ, c'est πr2. Alors, le gros problème, en fait, de déterminer la masse, ça va être l'anisotropie des vitesses. C'est exactement le même problème auxquels on s'est affronté pour les galaxies elliptiques. On peut faire une analogie galaxies elliptiques et amas de galaxies. Pourquoi ? Parce que les galaxies elliptiques sont un système d'étoiles, elles n'ont pas de gaz, donc c'est un ensemble sans dissipation. Donc un ensemble d'étoiles sans dissipation qui va s'effondrer. Lorsqu'on est un amas, c'est un peu ce qu'on a, on a des galaxies ou de la matière noire, mais les deux sont sans dissipation. Le gaz est assez faible là-dedans. En fait, on a un tout petit peu de dissipation de gaz, mais ce qui domine, c'est la matière noire et qui est sans dissipation. Donc ce problème-là est le même. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être des objets finaux qui sont allongés, aplatis, mais ce ne sera jamais par rotation. Dans les galaxies elliptiques aussi, on avait remarqué que c'était des galaxies elliptiques aplaties, et elles étaient aplaties dans la direction de leur formation. C'est-à-dire que vous avez deux spirales, par exemple, qui deviennent elliptiques. C'est pareil pour les amas, vous avez des galaxies qui vont se fusionner. Et on aura une dispersion de vitesse plus grande dans cette direction-là, uniquement par anisotropie de formation. Donc c'est un petit peu ce problème qu'on a essayé de décrire ici. On a une certaine dégénérescence entre la masse et l'anisotropie des vitesses. Même si on fait l'hypothèse que, pour simplifier, les galaxies sont distribuées de façon isotrope, symétrique, à symétrie sphérique, on aura par exemple deux angles, ici le zénith θ et puis l'azimut φ. Et puis l'équation, c'est celle qui relie en fait l'équation du mouvement, qui relie la vitesse. Alors on a trois dispersions de vitesse en r et puis en θ et φ. On va quand même faire l'hypothèse, pour simplifier, que tout ce qui est tangentiel, ce sera symétrique, c'est-à-dire θ et φ, il n'y a pas de direction différente, c'est seulement une anisotropie radiale tangentielle. Donc, si vous voulez, on peut dire que sigma θ et sigma φ seront égaux ou semblables, parce que normalement, l'anisotropie qu'on va appeler bêta, qui est 1 moins sigma θ plus sigma φ sur 2 sigma r, 2, on va le diminuer par un facteur 2 en disant sigma θ2 sur sigma r2. En fait, c'est ça. Ce terme-là devrait être nul si les vitesses étaient isotropes. Et en fait, ne l'est pas. Alors ici, vous avez nu r, c'est la densité des galaxies, et les vitesses, et vous avez de l'autre côté le potentiel gravitationnel, donc la force gravitationnelle qui est égale à toute cette énergie cinétique. Donc si on regarde bien, ici on a ce fameux θ, et intuitivement, on comprend bien pourquoi. Si par exemple, l'amas va être allongé dans une direction donnée, c'est un petit peu comme un cigare, vous allez avoir beaucoup de vitesse dans cette direction-là, et si vous regardez dans le grand axe du cigare, vous allez avoir énormément de vitesse. Si vous tournez par projection, de l'autre côté, par effet de Perf, vous n'aurez aucune vitesse du tout. Donc vous pouvez avoir des masses complètement différentes que vous allez déduire par un facteur 10 ou plus, uniquement par anisotropie des vitesses. Et c'est ça le gros problème qu'on appelle dégénérescence masse-anisotropie. Il faut connaître ce bêta qui peut être de moins l'infini si vous avez des orbites tangentielles, ça veut dire que sigma θ est très grand, jusqu'à et sigma r nul, et jusqu'à bêta égale 1, si vous avez des orbites uniquement radiales, et puis 0 si c'est isotrope. Alors voilà exactement ce qu'on trouve dans les simulations numériques, que ce soit galaxie elliptique ou amas de galaxies, c'est pareil. En général, au centre, on voit quelque chose qui va être relaxé, mélangé, donc un peu plus isotrope, peut-être même tangentiel, parce qu'il va y avoir un peu de dissipation, donc on va y avoir un petit peu de rotation. Donc quelque chose qui va être très négatif ou nul, donc presque isotrope. Et puis au bord, on a dans les amas des mouvements qui continuent à tomber, donc des mouvements radio. Et ces mouvements radio, si vous les avez sur la ligne de visée, c'est là qu'ils vous trompent énormément sur la masse de l'amas, car les vitesses sont beaucoup trop grandes par rapport à cette masse-là. D'où il faut, pour essayer de comprendre mieux et de trouver la vraie masse de l'amas, essayer de modéliser cette dégénérescence. Alors voici ce qui a été fait par Capasso et al. Ils ont essayé d'utiliser les mêmes méthodes en fait, qui étaient employées par Mamon et al. Pour MAMPOS. C'est un software qui a été prévu pour les galaxies, mais c'est exactement pareil pour les amas. Et ils ont essayé de voir si la masse dynamique, donc bien modélisée, en pensant que l'anisotropie était contrôlée, était égale à la masse que vous avez par les autres techniques, par exemple les rayons X, l'effet Sunyaev-Zeldovich, qu'on va bien détailler, voir comment on peut avoir la masse avec ça. Et ils ont vu qu'à z égale 0, ça marchait à peu près, mais pour certains redshifts, ici par exemple, vous avez le rapport entre la masse dynamique et la masse par les autres traceurs qui est assez différente. Vous voyez, 0,6 au lieu de 1. Donc ça, c'est peut-être intéressant à voir qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors, la distribution de masse. Est-ce qu'il y a des modèles de cette distribution de masse ? Ça fait évidemment des dizaines d'années que les astronomes se sont penchés là-dessus. Et on a d'abord essayé d'avoir des formules analytiques de la distribution lorsqu'il se formait un amas de galaxies. L'idée sous-jacente, c'est de dire que la distribution de masse va être self-similaire. Qu'est-ce que ça veut dire, self-similaire ? Ça veut dire que ça ne va pas dépendre du rayon, il n'y a pas d'échelle caractéristique. Et même si l'amas croît, par exemple, il se forme au début de l'univers un tout petit amas, un petit cœur, et puis peu à peu, en fonction du temps, on va avoir des structures qui vont s'agglomérer, donc l'amas va grossir et grossir, et il va avoir toujours la même structure, sans échelle caractéristique. Ça veut dire que finalement, si on avait une loi de puissance en fonction de R, il n'y a aucune échelle caractéristique, et c'est certainement quelque chose un petit peu idéalisé pour avoir quelque chose qui ne dépend pas de l'échelle. Vous avez ici une petite intuition de cela. Lorsque on a considéré l'effondrement d'une structure, normalement, en fonction du temps, une structure, son rayon augmente avec l'expansion de l'univers d'abord, et puis les fluctuations augmentent en fonction du temps. Et lorsque cette fluctuation, le contraste de densité est assez fort, il va atteindre la densité critique localement pour qu'il retombe sur lui-même, en quelque sorte un petit Big Crunch. Et on a appelé ce mouvement-là le turnaround, c'est-à-dire la retombée, ici. Et puis, au bout d'un moment, il va retomber, il va être virialisé et puis former une structure. Mais vous voyez qu'au départ, c'est une petite structure qui se forme. Elle va retourner un certain temps et puis elle est déjà virialisée ici. Et puis la structure un petit peu supérieure un peu plus tard et puis un peu plus tard, un peu plus tard. Vous voyez un peu la self-similarité, c'est ça en fait. C'est qu'au fur et à mesure, on a quelque chose qui ressemble toujours à soi-même, quelle que soit sa taille. Alors, quand on regarde un petit film d'une structure qui se forme justement, on voit des filaments et on voit que la structure, bien que les contrastes augmentent, ce que je voulais montrer, c'est qu'au fur et à mesure, on voyait ces structures et les filaments se fusionner et finalement, on retrouvait toujours la même structure, même si c'était à plus grande échelle, on avait toujours... Ah ben voilà, en fait, ça va très vite. On avait toujours trois filaments, et c'est une structure self-similaire, c'est-à-dire qui se ressemble, quel que soit le temps. Et là, l'effet est un petit peu raté, puisque ça va soit trop vite, soit pas assez. Ben bon, je pense que je vous ai assez, un petit peu donné l'idée de ce que veut dire self-similaire. C'est-à-dire quelque chose, en fonction du temps, qui ressemble à soi-même, en fait. Alors, en effet, ça, c'est des simulations numériques, et ces simulations numériques, contrairement aux calculs analytiques, c'est beaucoup plus facile à faire en fait, quand on a beaucoup de temps de calcul. Et depuis 1997, donc à peu près une vingtaine d'années, on s'est aperçu qu'on a eu assez de résolution pour s'apercevoir que lorsqu'on faisait des simulations numériques de matière noire froide, le modèle standard, on arrivait toujours à la même densité universelle, quelle que soit la taille. Justement, c'est celle similaire aussi. Que ce soit une galaxie, donc la matière noire, en fait, dans une galaxie ou dans un amas de galaxies, c'est pareil, une question de taille, mais la gravité elle est toujours en 1 sur R2, et donc on n'a pas d'échelle caractéristique. Quelle que soit donc galaxie, amas de galaxies, ou groupe, ou n'importe quoi, on avait toujours le même profil. Alors on pourrait dire, bon, ce n'est pas tout à fait une loi indépendante d'échelle, puisque vous avez une échelle caractéristique, mais c'est que la loi indépendante d'échelle, elle s'arrête au bord. On a une limite où la structure a un bord, il y a un rayon de viriel, où la matière au-delà n'est plus virialisée. Donc c'est en gros une loi un petit peu isotherme. On verra tout à l'heure que lorsqu'on écrit l'équation d'un système isotherme où la dispersion de vitesse est constante en fonction du rayon, on a une loi qui normalement devrait être en 1 sur R2. Ici c'est R-1, R-3, donc presque R-2. Et on a un rayon caractéristique. Et on a ce qu'on appelle, pour les galaxies, on s'est beaucoup penché là-dessus, c'est qu'on a une densité qui devient infinie à R égale 0, donc ce qu'on a appelé cusp. Et pour les galaxies, c'est un gros problème parce que ce cusp n'est pas observé. On sait qu'on observe quelque chose qui est plat, donc un cœur, et on essaie de l'expliquer avec des phénomènes de feedback, de formation d'étoiles qui renvoient de l'énergie, ou alors de trous noirs centrales qui renvoient de l'énergie et qui repousse la matière noire. Mais en tout cas, lorsqu'il n'y a pas de baryon, on s'attend à trouver ce cusp ici, et puis une loi qui finit en R-3 lorsqu'on arrive au bord de la structure, donc qui se termine plus rapidement qu'au centre. Alors, est-ce que c'est vrai pour les amas de galaxies ? Alors déjà, dans les simulations, voici une autre vision un petit peu plus récente de cette loi. Alors la loi, elle est ici, hein, rho en fonction d'une certaine densité. Il y a un certain contraste ici. Vous voyez que si R égale 0, on n'a que ce terme-là, donc c'est en 1 sur R. Donc c'est bien le cusp ici. Et puis lorsque R est très grand, on a R3. Donc c'est ça la forme qui ensuite donne un coude au milieu. On a ces deux paramètres, la masse du viriel et la concentration. Ces concentrations dépendent de la masse. Et puis ici, on a dessiné ρ R2 pour être plus précis, hein, plutôt que dessiner ρ en fonction de R. Donc comme R2 ici, ça croît puisque c'est en R. Ici, ça décroît, le R-3 ici. On voit qu'il y a quelques structures, mais que, quelle que soit la résolution des simulations, ces simulations de plus en plus précises, on a bien cette structure-là. Donc c'est quelque chose qui est universel, qui marche pour les galaxies et tous les amas, quelle que soit leur masse. Et donc, comment est-ce qu'on peut vérifier ça en fonction avec tous les outils qu'on a? Donc, les outils dont on a parlé, le SZ, les rayons X, etc. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de l'outil SZ, qu'est-ce que la déformation dont on a parlé, la déformation du corps noir, elle s'écrit en fonction du paramètre la densité électronique, ce qu'on soit, puisque c'est la diffusion du photon par les électrons. Donc, un petit NE, tout le reste, c'est des constantes, et puis il y a la température de l'électron. Donc quand on somme sur la colonne densité, ici, sur la ligne de visée, on a la colonne densité d'électrons et TE. On a le produit NETE, c'est en quelque sorte la somme de la pression, hein, puisque la pression, c'est NKT, un gaz parfait. Donc ce qu'on mesure, c'est la pression. Si on fait la somme de tout sur tout l'amas de galaxies qu'on a mesuré, on a toute l'énergie thermique du gaz, en quelque sorte, et en calibrant avec des simulations ou avec d'autres amas que l'on connaît, on peut dire que ça va être fonction de la masse totale de l'amas, y compris la matière noire, que l'on ne voit pas avec ce traceur. Notamment, si on combine avec les rayons X sont l'émission directe des électrons, le free-free des électrons, le Bremsstrahlung, et donc ça nous permet de déconnecter ce produit, puisque le SZ, on a le produit NETE, et on n'a pas ni l'un ni l'autre, mais que le produit. Si on combine avec des observations X, vous voyez qu'on va pouvoir avoir la température. Donc on a énormément de quantités. On a plusieurs proxys de la masse, d'ailleurs, avec les rayons X. On a la masse du gaz obtenue en prenant toute l'émission émise par tout le gaz. Et puis on essaie d'en déduire la matière noire, donc la matière totale. Alors ici, je décris un petit peu le modèle tout simple qu'on fait, c'est-à-dire le modèle d'une vache sphérique, hein, comme le petit diagramme, le petit cartoon ici. C'est ce qu'on fait tout le temps. Alors on verra si ce modèle de très très simple est vrai, parce qu'en fait un amas c'est quelque chose de très complexe, ce n'est certainement pas sphérique. Mais voyez un peu la distribution isotherme dont je vous parlais. Hein, lorsqu'on écrit que la gradient de pression, hein, 1 sur ρ dp sur dr, qui est la force de pression, équilibre la force de gravité, m sur dr2, et qu'on écrit que la pression c'est celle du gaz parfait, on obtient que la densité recherchée est égale à sigma V2 sur R2. C'est la distribution isotherme qui est recherchée. Évidemment, la température n'existe qu'à grande échelle. Qu'est-ce que c'est la température? C'est à la fois la dispersion de vitesse des molécules, des électrons, des protons, et aussi des galaxies qui ont la même, c'est kT. Donc on peut le traduire, si c'est 1000 km par seconde, ça fait 6 k électronvolts, c'est-à-dire 30 millions de degrés pour le gaz. Alors, c'est presque ça. Quand on regarde les équations simples, ça marche presque. Mais on a un petit modèle bêta ici, qui est le rapport entre l'énergie ici, sigma V2 et kT. Bêta est presque 1. Et on fait un petit modèle. Ce qu'on observe, c'est ça, l'intensité des rayons X en fonction du rayon. Vous voyez qu'on a un petit cœur ici, et puis une pente qui est à peu près moins 3 bêta. Si bêta égale 1, on a le vert qui est au milieu. Et puis, bêta est parfois très proche de 1, mais ce n'est pas si mauvais que ça, finalement. Alors, vous voyez que quand on prend plusieurs amas, et on a vu que dans la plupart des études, on empile tous les amas les uns sur les autres parce qu'on n'a pas assez de statistiques sur chaque amas individuel. Vous avez ici 3 amas. Les contours noirs, ce sont l'émission des rayons X. Le rouge et le bleu, c'est les contours de la somme de toutes les galaxies, en quelque sorte, donc l'intensité des galaxies. Vous voyez que chacun est très, très tourmenté comme forme, mais lorsque vous empilez 100 amas d'un coup, eh bien, le modèle, finalement, de la vache sphérique n'est pas si faux que ça, on doit le dire. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu avec ça? Déjà, Kattgaard et al. En 2004 avaient fait ce petit jeu pour 60 amas d'Abel, l'amas Z égale 0. Ils avaient aussi 3000 galaxies dans ces 60 amas, donc un peu plus qu'avec SPT, donc peut-être 60 spectres de galaxies par amas. Ils avaient tout empilé avec une certaine catégorie de masse. Et voici un peu la masse en fonction du rayon et en fonction de ce rayon R200. Vous voyez en rouge le modèle qui est de le Navarro-Frankenweis, c'est-à-dire le modèle universel R-1, R-3, qui marche pas trop mal. Alors au centre, on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas assez de résolution. S'il y a un cœur, en tout cas, il est inférieur à la résolution 0,1 mégaparsec. Mais si vous mettez ce diagramme-là, ici, c'est en log-log, si vous le mettez en linéaire, ça va beaucoup mieux. On voit bien que le rouge marche très bien avec les points. Donc, ce qu'il faut retenir de ces premières études, c'est que le modèle universel marche très bien pour les amas. Et ça, ça peut être une surprise, parce que pour les galaxies, ça ne marche pas du tout, mais ça marche vraiment pour les amas. Ce qui veut bien dire que dans les galaxies, on ne peut pas appliquer la self-similarité aussi facilement que ça, parce qu'on a beaucoup de baryons, les baryons sont dissipatifs, et on a beaucoup d'effets de feedback des supernovae, etc., ce qu'on n'a pas dans les amas. Donc les trous noirs, les supernovae, nous gênent dans les galaxies et pas dans les amas. On a vraiment un cusp, une loi en 1 sur R qui est vérifiée pour les amas. Le modèle isotherme marche moins bien que le modèle NFW. Donc pour le traceur de rayons X, on l'a beaucoup étudié et on a pas mal de ce qu'on appelle relations d'échelle, c'est-à-dire aussi des relations de self-similarité. Alors je reprends l'équation simple de asymétrie sphérique qui relie la pression, la force de pression et la force de gravité. Pour avoir un équilibre hydrostatique du gaz, il faut qu'il y ait équilibre à chaque rayon. Alors vous voyez que si j'écris cette équation, hein, la masse à l'intérieur d'un certain rayon R en fonction de la pression, le gradient de pression avec la pression et celle des gaz parfaits, toujours nkt, on s'aperçoit que l'on a ici une dérivée logarithmique de la température en fonction du rayon. Donc si je prends le modèle isotherme, ça va être zéro, puisque la température ne varie pas. Et puis une variation logarithmique de la densité du gaz en fonction du rayon. Alors ceci, si c'est une loi de puissance, ça va être une constante. Et donc on aura ici une constante. Donc on peut dire que la masse, finalement, elle est proportionnelle à quoi ? À la température et au rayon. Uniquement, tout le reste, c'est des constantes. D'où la loi d'échelle M en RT. Bon, c'est aussi la masse noire. Alors, la densité de matière noire à une densité donnée, elle est toujours constante d'un point à l'autre. Pour un chiffre donné, c'est 200 fois la densité critique, etc. Donc on a R3 est en RT. Et on en déduit ces relations d'échelle qui sont prédites par ce modèle simple. C'est-à-dire que la température va comme le rayon au carré pour des amas donnés. Hein. Pour un amas donné, elle est censée être constante. Et ensuite, pour un amas deux fois plus grand, vous avez quatre fois plus de température, par exemple. Donc c'est la température qui est en R au carré, la masse en T3,5, etc., d'un amas à l'autre, lorsque la taille de l'amas croît. De même, pour la luminosité en X, vous attendez à ce que ça aille comme T au carré, si la température est... Donc toutes ces lois d'échelle, on va essayer de voir si elles sont vraies ou pas. Et on va aussi voir en fonction du redshift. Alors comment elle va varier en fonction du redshift ? Ici, on prend toujours les grandeurs, hein, la masse, la température, le rayon, à des rayons bien précis qui sont les rayons à 200 ou 500 fois la densité critique. Alors pourquoi 500 fois ? C'est que parfois on n'a pas assez de sensibilité pour aller assez loin. Ici, vous avez une densité, une température d'une simulation numérique. La densité est ici, la température là. Vous voyez que parfois, en rayons X, on n'a pas plus de résolution que le premier cercle. Et le premier cercle, c'est le rayon où la densité moyenne à l'intérieur est égale à 500 fois la densité critique. Et puis ensuite, vous avez 200, etc. Donc parfois, on s'arrête à 500 en rayons X. Et puis, le rayon du viriel, où c'est virialisé, c'est en gros égale à peu près à R200. Et vous voyez que jusqu'à 3 R200, et même le turnaround serait ici, vous avez des tas de parties externes où vous n'êtes pas virialisé complètement, mais vous êtes toujours dans le régime de chute du filament, ou même des galaxies qui sont des filaments, qui tombent sur l'amas. Donc toute cette région, on va en parler un petit peu à la fin, ce sont des régions très intéressantes où on peut calculer le taux d'accrétion de l'amas et le taux de croissance des amas. Alors, en fonction de Z, eh bien, c'est tout simplement ce qui varie, c'est la densité critique en fonction de Z. Alors, on sait qu'il y a ce phénomène de l'énergie noire qui commence à nous embêter à Z égale 0,5. C'est seulement récemment, à 5 milliards d'années, que ça vient. Donc, comme on aura des amas à Z égale 0,5, 1, etc., on peut négliger oméga lambda et on voit que ça varie en 1 plus Z au cube. Donc, ça, c'est plus facile. Et on a cette dépendance-là qui arrive pour toutes les lois d'échelle auxquelles on s'attend. Hein. Donc, voici. La masse va varier comme la température et puis 1 plus Z moins 3,5, la luminosité en TX2, etc. Donc on va essayer de voir si ces lois d'échelle sont vérifiées sur la réalité. Et en fait, quand vous regardez cette compilation de Rosati en 2002 sur un certain nombre d'amas, eh bien, pour la luminosité, ça ne marche pas très bien. Alors, ça ne marche pas très bien. Vous voyez la pente ici, Lx en fonction de Tx. Vous avez 4, 3, mais pas 2. Donc 2, ce serait par là, mais ça a l'air de monter beaucoup plus vite. Et ça, c'est le gros problème. En fait, on a une loi d'échelle, encore, empirique, mais avec des exposants plus grands. Et pourquoi ? Eh bien, simplement, il y a d'autres physiques à rajouter. Ici, on avait pensé que toute l'énergie du gaz était due à la gravité, c'est-à-dire la gravité fait effondrer le gaz qui réchauffe. C'est l'énergie gravitationnelle qui se retrouve en énergie cinétique et en chaleur. Et en fait, il y a une autre énergie qui n'est pas gravitationnelle, et qui est celle des étoiles, alors c'est l'énergie nucléaire dans les étoiles, ou bien les trous noirs, donc c'est l'énergie lorsqu'une masse tombe sur le trou noir et qui renvoie de l'énergie, et ce n'est pas du tout compris dans l'effondrement de l'amas. Donc cette énergie non gravitationnelle, il faut la rajouter, et c'est ça qu'on apprend lorsque on fait une compilation de ces lois d'échelle. Ici, vous en avez d'autres, de Bonamante et al. Qui a regardé le traceur SZ. Alors il y a quelque chose qui est rassurant tout de même. En fonction de la masse totale de gaz des amas, donc les petits amas ici, les gros amas, vous voyez, la fraction de gaz est constante. Et ça nous rassure, ça veut dire que la fraction baryonique de baryon sur la matière noire est constante et tend vers la fraction universelle que l'on a dans l'univers. Donc ça, c'est un résultat. Et puis, les lois d'échelle que l'on trouve, en fonction de la masse de gaz ou de la température, ne sont pas tout à fait égales à celles auxquelles on s'attendrait par les modèles très simples. Alors, ce qu'on a quand même observé, et ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine avec Monique Arnaud, c'est le fait qu'il y existe, dans tous les amas X, un profil de pression universel. Ça ressemble un petit peu à la loi de NFW pour la matière noire. On a quelque chose qui est en deux lois de puissance et qui, ici, vous est montré en fonction de la température. Vous voyez que le froid est ici en bleu et le chaud en rouge, donc les amas les plus massifs sont de ce côté-là, donc évidemment plus de pression. Et vous voyez que ça marche très bien, on a une bonne gradation de température pour les amas les plus massifs, etc. Et on peut, si on le normalise à bon rayon, avoir une loi de pression universelle. Alors voilà par exemple. Alors, cette loi universelle, elle se traduit en loi de densité universelle en fonction du rayon, c'est le noir. Et on s'aperçoit tout de même qu'il y a des écarts à cette loi universelle, parce qu'en fait, il y a deux catégories d'amas. Il y a des amas qui sont très relaxés, qu'on appelle à cœur froid. À cœur froid, pourquoi ? Parce que justement, ils ont un centre. Il y a une seule galaxie centrale, la plus grande, la plus brillante, ce qu'on appelait galaxie CD, une galaxie cannibale au centre. Et puis, il y a un centre bien précis. C'est l'amas relaxé, c'est celui qui s'approche le plus de l'idéal de l'amas, où il y a une symétrie sphérique, etc. Et puis, il y a des amas non relaxés qui sont dus à des collisions d'amas. Donc, il y a l'amas de Coma, par exemple, en étain, c'est-à-dire qu'il est formé de deux sous-amas. Il n'y a pas de centre, et on est en train de voir la fusion de deux sous-amas pour former un gros, plus gros amas. Donc, il est en train de devenir un gros amas, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de centre commun. Donc c'est pourquoi ces amas non relaxés ne peuvent pas se refroidir. On se refroidit lorsque, au centre, on a une très grande densité de gaz, de plasma, donc d'électrons, et le temps de refroidissement, ce qu'on appelle T-cool ici, il est inversement proportionnel à la densité au carré. Donc au centre, on peut refroidir. Donc ce que vous voyez sur la température ici, vous avez, quand on va vers le centre, une température qui tombe. Et en effet, on voit qu'il y a du gaz qui, de gaz chaud, devient gaz froid et tombe sur la galaxie centrale et permet à la galaxie centrale d'être alimentée, former des étoiles, même alimenter son trou noir et faire une activité de noyau actif. Donc ça, c'est tous les bleus, ce qu'on appelle relaxés et amas à cœur froid. Par contre, les autres, qui sont des fusions d'amas avec des sous-structures, ils ne sont pas du tout relaxés et ils ne se refroidissent pas. Donc il y a ces deux-là qui sont tout le temps là, même dans les simulations numériques, et qu'on a compris qu'il fallait prendre en compte ces deux catégories. Alors c'est pourquoi, pendant très longtemps, la comparaison entre simulation et observation ne collait pas très bien. On n'avait pas compris toute cette énergie qu'il fallait rajouter à l'énergie gravitationnelle pour prendre en compte les étoiles et les trous noirs. Et donc ça, ça n'était pas dans les simulations au départ. Maintenant, ça y est. Alors, ce qu'on faisait dans les simulations avant, c'était la matière noire. Donc on avait quelque chose de gravitationnel. Et ce qu'on observe, en fait, ce ne sont que les baryons. Donc c'est la surface du gâteau. Et donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Maintenant, on met beaucoup plus de physique dans les simulations et on s'aperçoit du problème. Par exemple, vous avez un amas ici qui est très relaxé. C'est un amas à cœur froid. En bleu, vous avez les rayons X, et en rouge, vous avez l'émission radio, un jet radio de la galaxie principale d'amas. La galaxie principale d'amas est ici en blanc, et en rouge, vous avez le jet radio, qui sont des électrons relativistes qui font des trous dans le gaz très chaud. Et on voit que ces jets radio de l'hydrogène est quelque chose qui chauffe énormément tout le gaz X, en fait. C'est pas négligeable du tout. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'énergie et que la luminosité en X, elle n'est pas du tout celle que l'on pouvait s'attendre avec uniquement les phénomènes gravitationnels. Donc il y a tous ces phénomènes-là que l'on prend en compte maintenant. Alors pour le chauffage et le refroidissement du gaz, il y a plusieurs phénomènes. La principale, c'est l'électron qui est libre, complètement libre. Donc on appelle cette émission free-free ou Bremsstrahlung. Et quand on regarde le bilan énergétique en fonction de la fréquence, ici, ou de l'énergie en F, vous voyez que le free-free, c'est ce qui est bleu, qui est l'essentiel, en fait. Vous avez d'autres émissions en vert, la recombinaison. Vous avez les deux photons, je n'en parlerai pas beaucoup. Et puis, vous avez aussi toutes ces raies. Alors, qu'est-ce que c'est que ces raies? C'est des éléments lourds. On s'est aperçu au début avec surprise, parce qu'on pensait que tout ce gaz de très chaud dans les amas, c'était du gaz primordial, qui avait très peu d'éléments lourds. Mais, en fait, il y en a beaucoup. Et on avait déjà décrit dans les séances précédentes que les supernovas des galaxies enrichissent par le rejet dans le milieu intra-galaxie, intra-amas, beaucoup d'éléments lourds, le carbone, le magnésium, le fer, etc. Et donc toutes ces raies, vous voyez que la fonction de refroidissement, elle dépend de toutes ces raies. Les raies des éléments lourds sont des importants refroidissants du gaz, donc ces raies sont très importantes pour savoir quel est le chauffage et le refroidissement. En fait, il y a beau avoir un tiers d'abondance solaire des éléments, la plupart des éléments sont au milieu des galaxies, non pas dans les galaxies. Donc les galaxies perdent les éléments qu'elles fabriquent dans les étoiles là-dedans. Donc lorsqu'on remet un petit peu dans les simulations tous ces phénomènes, alors ici on voit la luminosité X en fonction de Tx et la loi d'échelle auquel on pouvait s'attendre s'il n'y avait que les événements gravitationnels. Ici vous voyez en bleu sans AGN, sans le feedback des trous noirs, et puis en rouge, donc les bleus et les rouges sont des simulations, lorsqu'on a pris en compte les trous noirs, vous voyez que c'est quand même très différent, il y a une flèche verte qui relie les deux, et on voit qu'on passe d'un ordre de grandeur ou plus dans la luminosité. Donc ça permet de montrer qu'on va changer la pente et on va retrouver un meilleur accord entre la luminosité et la température. Donc c'est quelque chose qui commence à être mieux compris. De même, la fraction de baryons. Alors, pendant très longtemps, et c'est encore vrai, à l'extérieur des amas, on ne sait pas où sont tous les baryons, on n'en voit que très peu. Mais dans les amas, c'est un endroit où on en voit relativement beaucoup grâce au gaz chaud, qui est très chauffé par les collisions. Ici, on a la fraction d'étoiles. Vous voyez qu'en fonction de la masse de l'amas, le gaz domine par rapport aux étoiles, ce qui n'est pas vrai pour les petits amas où on a quand même le gaz, la masse du gaz c'est à peu près la masse des étoiles, et puis ensuite le gaz va dominer, et puis la fraction de baryons par rapport à la fraction universelle, c'est-à-dire 17%, hein, c'est le 5% de baryons sur 30% de matière totale de l'univers, eh bien on arrive pour les amas très très massifs, on commence à voir tous les baryons, ce qui n'est pas encore le cas pour les amas plus massifs. Alors malheureusement, ces amas très massifs, c'est très peu de masse dans l'univers. La plupart des galaxies sont dans les groupes et dans les vides, et là, on ne sait pas où sont tous ces baryons. Alors dans les sous-structures, on a recherché à déterminer les sous-structures avec les traceurs qui sont les FSZ. Alors ici, vous avez une petite simulation, une simulation d'un amas qui serait homogène, le gaz serait homogène, ou alors il serait en deux morceaux avec un choc au milieu, ou alors en deux structures. Et ces deux colonnes-là, ce sont uniquement des filtres pour mieux les voir. Donc ici, c'est une simulation et on a fait jouer les filtres sur cette simulation. Les filtres, ça veut dire qu'on supprime tout ce qui est lisse et on essaie de soustraire ce qui est à peu près ne varie pas beaucoup et pour voir les chocs. Et on voit, par exemple, ici, on voit le choc entre les deux structures. Donc ces filtres-là, mathématiquement, je ne les décris pas, mais c'est juste pour filtrer. Et on s'aperçoit dans les observations qu'on observe ceci et on applique les deux filtres. Et vous voyez qu'on voit les sous-structures. On commence maintenant avec l'effet Z. Quand on fait une carte du gaz très chaud qui diffuse le fond cosmologique, on voit les structures, on voit les chocs, on voit les amas. Par exemple, on voit que le cœur ici n'est pas piqué vers le centre. Donc sans doute, ça doit être quelque chose qui est perturbé, qui n'est pas un cœur froid, sinon un cœur froid serait piqué vers le centre. Donc on s'aperçoit de toutes les structures maintenant avec, grâce à la résolution, par exemple le télescope de l'IRAM a un bolomètre qui s'appelle NICA, qui est donc dans la Sierra Nevada en Espagne, et permet de résoudre les amas proches et même assez lointains. Vous savez que l'effet SZ ne dépend pas du redshift, donc contrairement aux X où l'intensité décroît avec la distance, comme ici on est basé sur le fond cosmologique, il a toujours la même intensité, il est partout. Donc ce SZ permet d'aller très très loin en redshift et de détecter toutes ces points-là. Ce qu'on s'est aperçu par exemple, c'est que le gaz flottait un petit peu dans l'amas. Lorsque vous avez deux collisions de deux amas, c'est comme lorsque vous êtes sur un bateau et que vous obtenez un seau avec de l'eau, votre eau va bouger dans le seau. Ici c'est pareil, on a des collisions entre amas et le gaz, on appelle ça sloshing en anglais, mais ça veut dire que le gaz bouge et ne reste pas au centre de l'amas. Alors quand on compare tous ces traceurs, ici il y a une comparaison en rouge, ce sont les X, en vert, je crois que c'est les lentilles faibles, et en bleu les lentilles fortes, et puis les simulations, on voit qu'il y a énormément encore de dispersion, on est encore loin du compte, il faudrait qu'on améliore les processus d'observation et d'interprétation, mais on voit que la barre d'erreur est encore grande pour comparer aux simulations numériques ici. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous parler des parties externes. Je vous ai parlé des parties surtout internes où il y avait un profil de NFW. Et depuis les dernières années, on s'intéresse aux parties externes là, qui sont encore en train de tomber sur l'amas. Voici une simulation de dimère qui montre bien qu'il y a comme un rayon caractéristique où la densité tombe brutalement ici. Et il semblerait qu'on puisse, à partir de là jusqu'au rayon de Verriel, on puisse en déduire le taux d'accrétion des amas. Et c'est ça qui est très intéressant. Et surtout, l'extérieur des amas n'est pas perturbé par tous les phénomènes complexes qui sont formation d'étoiles et trous noirs, qui nous gênent un petit peu pour comprendre ce qui se passe. Alors voici une des simulations qui cette fois marche un petit peu mieux, qui sort de Horizon AGNN, que vous avez vu avec Johan Dubois l'autre jour. Vous n'avez que du gaz ici, donc le vert c'est la densité du gaz, le rouge c'est la température, donc vous avez des explosions de supernovae qui sont un petit peu partout. Vous avez ici une région au hasard de l'univers, donc il n'y a pas d'amas. Et lorsque vous avez une région surdense, vous avez un amas, vous voyez que tout le gaz se retrouve dans un amas que vous allez avoir à peu près ici. Et puis ce qui est en bleu, c'est les éléments lourds. Donc comment ils se diffusent dans l'amas, on voit qu'ici, il y a en effet le gaz. Et ces simulations permettent de savoir si le gaz et la matière noire sont reliés. Il n'est pas ploté ici, mais on l'a derrière. Donc voici, c'est peut-être encore plus facile de le voir de façon statique, voici ce qu'on obtient par simulation numérique. Vous avez ici la matière noire, donc un rayon très brutal où la matière noire s'arrête. Ici, c'est le rayon d'accrétion, un choc d'accrétion. On voit les filaments qui commencent à accréter. Et ici, un rayon qu'on va appeler splashback en anglais, ou je dirais en français un rayon de retombée de la matière. Splash, c'est plutôt l'éclaboussure, si on veut. Donc, on appelle ce rayon splashback ou retombée de la matière, si vous voulez. Et c'est ce rayon-là qui est relativement intéressant. On va voir, il correspond aussi au choc dans le gaz. Ici, vous avez la température et l'entropie. On voit que le gaz, ce rayon-là, correspond aussi à la au gaz qui est choqué. Lui, il est dissipatif et lorsqu'il rentre dans le gaz, dans l'amas, il va être choqué ici. Alors, ce que montrent les simulations, c'est qu'en fonction du taux d'accrétion, vous avez plusieurs amas, donc plusieurs taux d'accrétion de la matière, le rayon de retombée de la matière, il est de plus en plus court. Vous voyez que le rayon tombe en fonction du taux d'accrétion. Donc, si on peut mesurer ce rayon de splashback, on va pouvoir peut-être en déduire les taux d'accrétion et le taux de formation des amas. Alors, je reviens un petit peu à cet effondrement linéaire dont nous avions déjà parlé lors de l'exposé précédent. C'est un petit peu le schéma que je vous donnais tout à l'heure, le rayon en fonction du temps et de toutes ces coquilles qui vont s'effondrer. Alors, si vous n'avez pas de surdensité, vous êtes dans l'expansion de l'univers. Et lorsque vous avez des coquilles, plusieurs coquilles, on fait la supposition que les coquilles ne se croisent pas. Et on voit que la coquille centrale tombe d'abord, puis ensuite la coquille suivante, etc. Et vont se virialiser. Et on avait dit que c'était assez facile de calculer parce qu'on pensait que les coquilles, dans symétrie sphérique, ne peuvent pas se croiser. Donc, c'était relativement facile. Alors, depuis quelques années, par exemple, Litvik et Dalal, en 2011, on pensait qu'il valait mieux aller plus loin et essayer justement de faire croiser ces coquilles. Donc, le calcul est plus complexe. Mais ça permet aussi d'éviter d'avoir une symétrie sphérique parce que ça change beaucoup. Donc, ils ont pris des solutions triaxiales. On sait que les petites axes se condensent beaucoup plus que les grands axes. Ils sont plus denses, donc on va avoir ça. Et puis, ce qui se passe, c'est lorsque vous avez, en fonction du temps, vous voyez, une coquille qui tombe. Lorsque c'est triaxial, ça ne tombe pas à zéro. Lorsque c'est une sphère, ça tombe à zéro, ça passe par le centre. Lorsque c'est triaxial, ben, ça va tourner, il va y avoir un certain moment angulaire, et on ne va jamais tomber vers zéro. Donc déjà, ça change le contraste. Ça change beaucoup de choses, en fait, de passer à trois dimensions sans faire l'approximation d'une vache sphérique. Et vous voyez un petit peu le calcul, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ils sont obligés, avec une solution quand même self-similaire, toujours une hypothèse de simplification, de calculer comment se croisent les diverses coquilles qui tombent. Et vous voyez un petit peu comment sont calculées les diverses coquilles qui s'effondrent en fonction du temps. Donc, à partir de là, il a pu être possible de calculer quel était le rayon, ce fameux rayon de retombée ou splashback. En gros, j'ai essayé de tracer un petit peu ce à quoi on pense, c'est-à-dire que lorsque de la matière tombe sur l'amas, elle va d'abord faire une première orbite, et c'est ce rayon, elle va passer par l'apocentre, avant d'être complètement piégé par l'amas, et c'est ce rayon-là qu'on va appeler rayon de retombée ou rayon de splashback. C'est ce rayon-là qui va faire en quelque sorte une caustique dans la densité et qui va être très visible et qui va pouvoir être mesuré dans les observations. Alors voici par exemple un calcul analytique de Chieta à trois dimensions. Vous voyez qu'on a dans l'espace R et vitesse la matière qui tombe. Alors en fonction du temps, au début c'est rouge. Donc la matière qui est tombée, elle a fait plusieurs oscillations, elle a fait plusieurs ceci. Et puis celle qui vient de tomber, elle est là. Donc c'est celle-là qui fait le splashback. Vous voyez ici, si c'était à trois dimensions, on va pas, toutes ne vont pas, toutes les coquilles ne vont pas au centre. Donc on a ce phénomène-là. Et ici, on regarde le rayon, ça se projette, c'est la même échelle en rayon. On voit qu'il y a une caustique ici. Et si on met la densité, cette tangente-là vous donne cette caustique. Et c'est ça, ce rayon de splashback, en fait. C'est cette caustique-là, lorsqu'on a fait le premier tour, on a le premier apocentre, et on voit qu'il y a une chute de densité qui est ici. Donc ça, c'est ce que prédit le calcul analytique. Quand on fait une simulation numérique, on a à peu près la même chose. Vous voyez qu'on a une densité qui tombe brutalement, ici. On l'a appelé ce rayon de splashback, ici. C'est à l'intérieur du rayon de Viriel, et à l'intérieur du rayon où la matière tourne, ce qu'on appelle turnaround ici. Donc on a plusieurs coquilles différentes et on peut identifier dans les simulations ce rayon-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi l'identifier dans les observations. Donc les observations, c'est le Sloan Digital Survey où on a un certain nombre d'amas de galaxies et ce qu'on plotte ici, c'est la densité surfacique de galaxies. Donc là, cette fois-ci, c'est en projection en fonction du rayon. Et on voit qu'ici, on a une coupure, on a une chute d'un facteur 4 à 5 de la densité. Ça se voit mieux sur la dérivée. Si on dérive cette quantité, d sigma sur dr, on voit qu'une pente est très négative ici. Et donc, c'est ce rayon-là. Alors ici, c'est différentes masses d'amas. Donc, c'est d'autant plus bien identifié, ce rayon-là, que l'amas est massif. Donc, ça, c'est la dérivée. Donc, on voit bien que ce point-là est facile à déterminer même dans les observations. Donc on appelle ce rayon ce splashback. Alors ici, ils l'ont même mis en fonction de la concentration de l'amas. Donc en orange, vous avez des amas plus concentrés, plus massifs, et moins concentrés en bleu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la largeur du trait, c'est les barres d'erreur. Donc on arrive très bien à déterminer, en dérivant cette fonction, la valeur de ce rayon avec une erreur barre qui est assez petite. Donc ça donne de l'espoir, c'est assez encourageant pour savoir comment va croître l'amas. Ici, dans les calculs analytiques, on avait un taux de croissance, donc ce rayon de splashback ici en fonction du rayon de Turnerat, qui décroît lorsque le taux d'accrétion est grand. Donc si on mesure ce rayon-là, qui est facile à mesurer, dans les simulations numériques aussi, c'est facile, on voit que plus l'accrétion est grande, plus l'amas accrète de la matière, et plus le rayon est petit, le rayon de retombée de la matière. Donc cette mesure-là, on voit aussi comment elle varie avec gamma, ça c'est un calcul analytique, on voit la caustique ici se former, et on voit comment ça varie avec oméga, avec beaucoup de paramètres, hein. Et puis aussi, on sait que le temps mis pour la matière pour faire cette orbite, en fait c'est trois quarts d'orbite pour arriver à cette première apocentre, et donc ça nous permet de savoir, par exemple, au redshift 0, si vous mesurez ce rayon de retombée, vous savez que pour oméga égale 0,3, c'est l'univers dans lequel nous vivons, avec un taux d'accrétion, mettons S égale 1, normalisé, l'amas a commencé à se former à 0,4, et cette matière-là est tombée à ce moment-là. Si vous avez un taux d'accrétion plus grand, ce sera plus proche, etc. Donc là, c'est vraiment les courbes analytiques correspondent bien aux simulations numériques. Alors, on peut donc distinguer ces deux parties, hein, les parties internes qui sont plus difficiles à comprendre parce qu'il y a beaucoup de phénomènes complexes et relaxés, mais rien ne dépend plus de redshift. Par contre, cette partie externe, là, c'est finalement quelque chose de plus encourageant pour savoir à quel taux croissent les amas. Alors évidemment, pour l'instant, j'ai parlé de matière noire. Il y a aussi le comportement du gaz dans ce rayon-là. Est-ce que le gaz va être plus dissipatif et avoir un rayon de retombée beaucoup plus petit? Ce n'est pas sûr. Tchernin et al., par exemple, ont montré qu'il y avait un rayon de retombée ici de manière anthropique qui était presque égal à celui de la matière noire. Ici, vous avez aussi des calculs analytiques qui disent que c'est possible que le gaz et la matière noire peuvent se dissocier. Ça dépend du taux d'accrétion. Donc, on va pouvoir mesurer ce taux à la fois par les lentilles gravitationnelles sur la matière noire et puis par les rayons X sur le gaz. Voici des simulations numériques avec gaz. Donc ici, vous voyez le gaz en filament, peut-être séparation en clump qui sont les galaxies et puis les filaments. Et ce qu'on voit ici, c'est la vitesse négative en fonction du rayon. Donc c'est un petit peu comme pour la dérivée. Vous avez une vitesse positive, c'est-à-dire le gaz qui continue à suivre l'expansion, et puis ensuite il rentre V égale 0 ici, et puis il devient très négatif, et vous avez en quelque sorte un choc d'accrétion ici qui se passe en bas. Vous voyez que la matière noire, c'est les pointillés, et la matière baryonique, c'est le trait plein, donc c'est presque au même endroit. Et donc on a ce rayon de choc, donc le rayon de choc d'accrétion est à peu près le même pour la matière noire et pour le gaz. C'est un petit peu aussi ce qu'on voit sur l'entropie. Donc quand on regarde la compilation des observations X, ce n'est pas encore gagné. Vous voyez, l'entropie est très, très, très diffusée. Mais les quatre amas les plus étudiés sont quand même moins dispersés. Bon, c'est quand même assez encourageant de voir que l'entropie a bien le facteur plat ici lorsque on a le choc d'accrétion. Alors, je terminerai avec deux transparents, qui est justement l'espoir que lorsqu'on mesurera ce rayon de retombée sur l'amas, on puisse peut-être discriminer entre les divers modèles de gravité modifiée. Il se trouve que certaines modifications de gravité sont complètement écrantées pour les champs forts, c'est-à-dire que dans le système solaire, par exemple, on ne voit absolument aucune différence avec la relativité générale, c'est le cas du caméléon et de Weinstein, et que justement, au bord des amas, on va commencer à trouver la différence. Donc voici des simulations, cette fois-ci encore numériques, pour diverses valeurs de l'équation d'état de l'énergie noire, et puis ici, divers modèles de gravité modifiée. On voit que ce rayon est différent si la loi de gravité est différente. Donc il y a quand même de l'espoir qu'avec les lentilles faibles, on puisse, même sans être trop perturbé par tous les phénomènes astrophysiques, comme je vous l'ai décrit, de formation d'étoiles et de trous noirs, distinguer entre les modèles de gravité différentes sur les amas de galaxies. Donc, en résumé, on commence à progresser sur les parties internes des amas. On sait qu'il y a un profil FNFW, mais il y a encore beaucoup à faire pour travailler sur la triaxialité et les phénomènes astrophysiques. Par contre, dans les parties externes, il y a un certain espoir d'avoir une simplification plus grande et de pouvoir déterminer cette caustique-là qui est assez facile à voir de façon observationnelle. Donc, je vous remercie.